Deutsche Welle. Magazine Santé.
C'est une maladie qui est négligée auprès des autorités étatiques. C'est une maladie qui est handicapante et qui est chronique, mais on n'en parle pas.
Maladie génétique résultant d'une mutation de l'hémoglobine. Cette semaine, nous parlons de la drépanocytose, une maladie chronique et handicapante, comme vient de le préciser Corinne Béby-Liégeois, présidente de l'association DrépaVie, qui mène des actions dans la prise en charge de la maladie. En seconde partie d'émission, il sera question des champignons comme remède contre certaines pathologies. Carole Assignon au micro, vous écoutez le magazine Santé. Encore appelée anémie et massif falciforme ou hémoglobinose S, la drépanocytose est la maladie génétique la plus fréquente dans le monde. On estime qu'elle touche environ 310 000 naissances chaque année. La drépanocytose est transmise par les deux parents, le père et la mère. Pour être malade, il faut que l'enfant reçoive de chacun des deux un allèle, c'est-à-dire une version variable d'un même gène. Un allèle muté donc du gène régissant la structure de l'hémoglobine. L'hémoglobine étant la protéine qui assure le transport de l'oxygène dans le sang. La drépanocytose est donc une maladie du sang et plus particulièrement de l'hémoglobine. Les globules rouges sont déformés et ont du mal à circuler dans le sang. Ils peuvent parfois se bloquer dans les vaisseaux sanguins, ce qui peut conduire à diverses complications aiguës ou chroniques avec un risque de mortalité. Les symptômes de la maladie peuvent apparaître dès l'âge de 2 à 3 mois. Alors, divers facteurs peuvent déclencher des crises, notamment une infection, une déshydratation, une mauvaise hygiène de vie, comme la consommation de tabac ou d'alcool, l'anxiété, le stress, une dépressurisation ou une altitude élevée, un effort physique intense ou encore le froid ou un temps sec. Pour l'heure, la prise en charge de la maladie consiste à soulager les douleurs pendant les crises, prévenir le risque d'infection grave et traiter les complications. Seulement voilà, la prise en charge de la drépanocytose se heurte à un certain nombre de difficultés. Des organisations comme DrépaVie tentent d'aider les malades et leurs proches à les surmonter. Et c'est ce que nous explique Corinne Béby-Liégeois, la présidente de l'association.
Les objectifs clés, c'est de sensibiliser et informer un large public sur la drépanocytose, qui malheureusement est une maladie négligée et encore méconnue du grand public. C'est essayer de sortir des familles et des personnes concernées de l'isolement, puisque c'est une maladie qui est handicapante et qui est chronique. Et le troisième point, c'est de soutenir les projets d'accès aux soins dans les pays du Sud. Et enfin, pour essayer de faire des plaidoyers auprès d'instances internationales pour que la drépanocytose soit prise en charge réellement dans les pays concernés, puisque ça reste encore une pathologie dont on ne parle pas. C'est comme si la drépanocytose restait comme une maladie taboue.
En Afrique noire, justement, on estime que près de 2% de nouveaux nés sont touchés par la maladie. Actuellement, Comment se fait la prise en charge sur le continent, puisque vous revenez justement d'Afrique?
Quand on parle déjà qu'au niveau de la sensibilisation, ça veut dire les personnes, les populations ne sont pas sensibilisées ni informées par rapport à cette pathologie. Donc, dans ce cas-là, la prise en charge reste un peu difficile. Et quand on parle de prise en charge, il y a la prise en charge primaire. En parlant des traitements de base de tous les jours, pour les pays en Afrique, ça coûte très très cher. Donc, ça reste vraiment un problème parce que ça demande des plateformes techniques très élaborées.
Au niveau de DrépaVie, vous menez quand même des actions d'aide et de soutien à l'accès aux soins. C'est quelque chose qui n'est pas évident dans les pays en développement. Comment vous vous organisez à votre niveau pour que les personnes malades aient accès aux soins?
Je peux vous donner l'exemple du Tchad, puisque j'étais au Tchad. Ils n'ont pas de programme national par rapport à cette pathologie. Donc, le premier travail qu'on a fait, c'était de faire des campagnes d'information, d'éducation et de communication. On a sensibilisé une bonne partie de la population. Donc, on a beaucoup travaillé avec les collèges, les lycées, les écoles primaires. informés sur la pathologie, d'aller faire leur dépistage. Parce que il y a différentes étapes pour pouvoir pallier à la drépanocytose, sensibiliser, informer les populations, dépister les populations. Et maintenant, quand les populations sont dépistées, ça veut dire quand les personnes connaissent leur statut, s'ils sont AS, SS, SC ou S-bêta-tal, après, on va voir comment on peut s'organiser pour une prise en charge. On essaye de faire, d'apporter un soutien pour l'accès aux soins de qualité.
Et comment la maladie même est perçue sur le continent au moment de vos sensibilisations? Comment le message est reçu?
En fait, les personnes se voilent un peu la face. Ils connaissent la pathologie. Sauf que, comme ils n'ont pas des informations claires et précises, ils ont tendance à confondre la drépanocytose avec les rhumatismes, avec l'arthrose, avec le paludisme. Certes que c'est lié avec le paludisme, mais c'est une maladie génétique, héréditaire, transmise par le père et la mère. Par exemple, la transmission est toujours mal perçue, on ne comprend pas, puisque derrière, au niveau culturel, il y a des tabous. On parle de sorcellerie, en plus c'est une maladie du sang, que sais pas. Donc cette information est vraiment capitale. Au niveau de Drépavie, nous on travaille beaucoup dessus, parce qu'on se dit que c'est la première prévention. Cette information est la première prévention avant de passer au traitement réel des patients.
Vous avez parlé tout à l'heure de l'isolement des malades, mais également des proches.
Oui.
Dans la prise en charge, justement, l'aspect psychologique, la prise en charge psychologique, elle est très importante.
Elle est très importante. On travaille avec les partenaires du Sud. On essaie de travailler beaucoup avec des psychologues, puisque cette pathologie a un retentissement psychologique très très lourd auprès des familles, auprès des personnes concernées elles-mêmes. Par exemple, quand je prends un adulte drépanocytaire, il a beaucoup de mal à rentrer dans la vie sociale au niveau de l'insertion professionnelle. Le fait de ne pas travailler, le fait de ne pas se sentir actif dans la vie de tous les jours, ça les isole énormément, donc ils ont tendance à se mettre en retrait, de ne pas participer, d'avoir même l'impression de se sentir inutile dans cette vie. Et donc, ça pose beaucoup de dégâts collatéraux au niveau de la famille. Sans oublier que, par exemple, en Afrique, ces personnes, comme ils sont souvent hospitalisées, il y a aussi un coût financier qui rentre en jeu.
Un mot sur la recherche, hein. Vous direz qu'il y a quand même eu des progrès?
Oui, il y a des progrès énormes. Maintenant, les progrès, ils sont visibles qu'en Europe, que dans les pays du Nord. Parce que, par exemple, on sait très bien qu'il y a la thérapie génique qui se fait, il y a la greffe de moelle osseuse qui se fait dans les pays du Nord. Or, on se retrouve dans les pays du Sud où on est encore en train de se battre juste pour la prise en charge primaire. Mais en termes de recherche, il y a beaucoup des avancées qui se sont faites. Il y a une molécule qu'on utilise maintenant, que les patients drépanocytaires prennent, qui a un effet très positif sur les patients. Il y a beaucoup de pays qui ont fait des efforts. Je prends l'exemple, par exemple, du Mali. Le Mali a un centre de recherche de la drépanocytose où ils ont un DU. Sur la drépanocytose, les patients sont pris en charge, il y a un forfait et ces patients-là sont suivis régulièrement, donc il y a des espoirs. Il y a aussi le Sénégal qui a des centres et il y a des très bons médecins africains qui ne demandent que d'avoir une plateforme correcte pour pouvoir travailler et de faire quelque chose.
Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez le magazine Santé sur la DW après la drépanocytose. Nous allons maintenant nous intéresser à la culture des champignons à des fins thérapeutiques au Togo. Une initiative de Kossi Agbalenyon, responsable de l'Association pour la gestion intégrée et durable de l'environnement. Alors d'où lui est venue cette idée? Écoutez sa réponse.
D'abord, j'ai commencé à cultiver les champignons juste pour l'aspect nutritionnel. Puis en l'an 2000, pour la première fois, je suis tombé sur un document. Et le document avait pour titre « Les champignons, une nourriture spéciale ». La découverte de la pénicilline va relancer l'intérêt du monde scientifique pour les champignons. Pour la première fois, on a pu découvrir un médicament qui permet de faire face à plusieurs infections à la fois. Et malheureusement ou heureusement, la Seconde Guerre mondiale commence quelques années après. Le besoin en antibiotiques devient tellement important que la science s'est intéressée plus aux champignons pour pouvoir produire la pénicilline. C'est ainsi que les recherches vont se poursuivre et on va arriver pour la première fois à fabriquer ce qu'on appelle, ou bien à découvrir ce qu'on appelle aujourd'hui le mycélium. Donc pour reproduire n'importe quel champignon, il faut partir de ce filament blanc. C'est ainsi qu'à partir de 1943, on a réussi à reproduire le Penicillium notatum, qui est le champignon qui donne la pénicilline.
Kossi Agbalenyan cultive donc des champignons comestibles dont il se sert pour traiter un certain nombre de maladies. Mais quel type de champignons pour quelle pathologie?
Si nous prenons les champignons, de façon générale, la science dit que leur point commun, c'est la stimulation du système immunitaire, avec peu ou pas du tout d'effets secondaires. Maintenant, de façon spécifique, nous avons premièrement le Lentinus tuber regium. On l'appelle aussi Pleurotus tuber regium. C'est un champignon local qu'on peut retrouver partout au Togo. Ce champignon est utilisé traditionnellement pour traiter les problèmes d'asthme. Vous consommez ce champignon, vous êtes asthmatique, ça vous soulage et ça vous guérit même. Il est capable de guérir ce champignon. Ce champignon est utilisé pour les problèmes de tension. Le numéro 2, nous avons le Ganoderma lucidum qui permet de régler les problèmes de la surexcitation nerveuse, le Cordyceps sinensis qui permet de corriger tous les problèmes de dysfonctionnement sexuel au niveau masculin et féminin.
Sur la liste figurent également des champignons utilisés comme complément alimentaire, ceux qui aident dans le traitement du paludisme ou encore pour fluidifier le sang. Le champignon comme médicament, on n'a certainement pas fini d'en parler. Pour l'heure, c'est déjà la fin du magazine Santé. Merci pour l'écoute et à la prochaine.